Voilà, il est 13h sur toute l'étendue du territoire national. Le journal de cette mi-journée avec Reine Fabienne d'Otiga. Reine Fabienne, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane, bienvenue à tous à cette édition. Le sommaire, changement de régime au Mali, l'armée pousse le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à démissionner, un putsch contesté par l'ONU, l'Union africaine ainsi que la CEDEAO. Les jeunes centrafricains engagés à ramener la paix dans le pays, ils réfléchissent depuis hier sur ce qui les empêche à s'investir pour la paix. Dans ce journal aussi, les acteurs humanitaires sont à l'honneur ce 19 août. Héros du quotidien, c'est le thème choisi pour la célébration cette année. En sport, le personnel de l'ONA Sport est finalement entré en grève ce matin. Il revendique 5 points, dont le paiement de 4 mois d'arriéré de salaire.
Reine à la une de cette édition, l'armée prend le pouvoir au Mali.
L'armée malienne a poussé le président Ibrahim Boubacar Keïta à démissionner, à dissoudre l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Le nouvel homme fort du Mali, le colonel Ismaël Ouagé, et ses hommes ont pris le pouvoir à la suite d'une mutinerie sans résistance. Ils ont arrêté plusieurs généraux et aussi des ministres.
Aux côtés des militaires, la population a également investi les rues de Bamako pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Le chef de l'État est contesté par une partie de l'opinion malienne et la société civile depuis plusieurs mois. Même si l'armée annonce qu'elle va restituer le pouvoir aux civils, ce coup d'État est condamné par l'ONU, la France, l'Union africaine et les pays de la CEDEAO qui d'ailleurs ont fermé leurs frontières avec le Mali.
Ici au pays, les jeunes centrafricains sont dans le dynamisme de ramener la paix.
Le Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec l'ONG Accor, a ouvert hier à Bangui une rencontre des jeunes afin de discuter des barrières et obstacles, tout ce qui les empêche à mieux contribuer pour la paix en Centrafrique. À l'issue de cette session de 2 jours, les jeunes vont formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement. Écoutons Pamela Audrey Derom, présidente du CNJ, au micro de Chris Roy Jordan Badengbe.
Nous avons un projet en partenariat avec l'ONG Accor et ce projet vise à favoriser la participation des jeunes dans le processus de prise de décision. Mais à travers les activités, les multiples activités incluses dans ce projet, entre autres, à consulter les jeunes même pour connaître les facteurs, les mobiles qui ne favorisent pas leur participation tant au niveau de paix et de prise de décision. Et au-delà de ça, utiliser les outils au sorti de tous ces processus-là, entre autres, puisqu'on va consulter les jeunes pour connaître ces facteurs endogènes qui ne favorisent pas leur participation. Bon, le projet, non seulement ça va avoir un impact sur la jeunesse, mais je suis optimiste que nos autorités vont également prendre en compte cela, l'avis des jeunes. Nos autorités prendront en compte le rôle important que joue la jeunesse, qui constitue la majeure partie de la population centrafricaine et qui vont contribuer dans le développement du pays.
Le monde célèbre ce 19 août la journée de l'aide humanitaire.
Cette année, elle est commémorée autour du thème « Héros du quotidien », une manière de rendre hommage aux personnes qui ont dédié leur vie à venir en aide aux autres. Inès Laure Ngopo.
La célébration de cette 11e édition de la journée de l'aide humanitaire est particulière du fait de la pandémie de Covid-19. Le thème « Héros du quotidien » a été choisi pour rendre hommage et de soutenir le travail des acteurs humanitaires et aussi plaider pour leur sécurité. Ici, en République centrafricaine, la situation humanitaire reste déplorable en dépit des efforts fournis. François Batalingaya, chef de bureau OCHA en Centrafrique.
La situation humanitaire s'empire de jour en jour ici en RCA. Donc, nous sommes en train de mener des enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe. Donc, Erich va nous aider en fait à savoir les besoins. Nous avons loué un hélicoptère qui va nous aider à arriver dans certaines de ces zones où on n'a pas vraiment d'accès. Par exemple, des zones comme Djema, des zones comme Nzako, donc où on était ce week-end, des zones comme Wadadjale. Toutes ces zones où vraiment l'accessibilité est difficile. Maintenant, on commence à y aller pour voir un peu la sévérité des besoins.
François Batalingaya appelle le gouvernement centrafricain à appuyer davantage les acteurs humanitaires aux groupes armés. Il leur demande de faciliter aux humanitaires l'accès aux personnes vulnérables.
Je voudrais lancer un appel aux acteurs étatiques et non étatiques de veiller à la sécurité et la protection de ces humanitaires, surtout les héroïnes méconnues. Plus particulièrement ici en RCA, j'appelle les groupes armés, signataires ou non signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, de garantir et de faciliter l'accès aux populations vulnérables et surtout à ces femmes qui ont besoin d'assistance et protection.
Selon OCHA, durant les 7 premiers mois de l'année 2020, 230 incidents sécuritaires ont ciblé les acteurs humanitaires, dont 2 décès et 20 blessés.
Rennes, le député de Bouda dénonce le détournement présumé des indemnités destinées aux agents recenseurs et chefs de villages et quartiers de la localité.
Fait qu'il attribue aux responsables de l'autorité locale des élections et les superviseurs de l'ANE en provenance de Bangui. Selon Maxime Bonjo, député de Bouda, la mauvaise gestion gangrène le processus d'enrôlement des électeurs dans la sous-préfecture de Bouda. Il demande la démission pure et simple de l'équipe locale actuelle de l'ANE pour la bonne tenue des élections dans la région. Maxime Bonjo, député de Bouda avec Igor Dessrin Sénapaï.
C'est l'autorité locale des élections de la commune Lubengoto, par la voix de son président, M. Max Torozo, parfait, et de Victorien Wizimbi. D'ailleurs, c'est pas un fait anodin, Victorien Wizimbi est connu dans la malversation financière, surtout dans le domaine électoral, c'est pas la première fois. Mais j'ai pas compris comment Victorien Wizimbi s'est retrouvé dans cette allure. C'est eux qui ont prélevé sur les 33 centres en ce qui concerne les chefs. 16 500 francs au lieu des 31 000 dans chaque centre d'enrôlement qu'ils ont empoché. Plus grave pour les agents recenseurs. Ils ont coupé 60 000 francs par agent recenseur. Pour les soixantaines des agents recenseurs, c'est là que ça fait un tollé. Dieu merci, je suis arrivé.
Ne pensez-vous pas que c'est une accusation contre ces deux derniers? Est-ce que vous avez les preuves de ces allégations?
Mais je ne pense pas, parce que vous-même, vous avez posé une question en me disant que vous avez été informé d'une plainte. Et les plaintes sont là. Je vais déposer, je vais saisir la justice. Ils ont déposé plainte contre ces personnes que je suis en train de citer, de la commune Lobengoto. Je parlais de Max Torozo, Victorien Wizimbi. C'est pas moi, c'est le collectif des chefs.
Les personnes mises en cause n'ont pas encore donné leur version des faits.
Alors, dans la suite de ce journal, Rennes, c'est une lueur d'espoir pour la formation des enseignants du fondamental en Centrafrique.
Un institut national de formation destiné à former les instituteurs et responsables de l'éducation sera bientôt construit à Bossangwa. L'annonce a été faite la semaine dernière par le coordinateur du projet d'urgence de soutien à l'éducation de base lors d'une mission d'identification du site dans la ville. Gilbert Silankwe Febounazui au micro de Raphaël Nganaré, notre correspondant à Bossangwa.
Depuis l'indépendance, nous n'avons qu'une seule école de formation du fondamental et l'autre qui est de l'enseignement supérieur qui forme également des professeurs. En dehors de ça, on n'a pas d'autres centres de formation. C'est pour cela que la Banque mondiale a pensé qu'il est important de créer une deuxième école de formation que nous appelons aujourd'hui l'Institut national de formation que nous allons installer ici. Donc cette mission se fait en prélude de la journée mondiale de l'alimentation qui aura lieu en octobre pour que, en marge de ces festivités, que le chef de l'État puisse poser la première pierre. Donc c'est par rapport à ça que nous avons déjà informé les autorités locales par l'intermédiaire du ministère de l'administration du territoire qui nous ont réservé 4 sites que nous avons eu l'occasion de visiter. La direction régionale de l'urbanisme a investi sur l'axe Bangui et nous a trouvé un site et c'est celui-là qui est retenu. Ce qui détermine le choix, c'est le fait que dans la ville de Bossangwa, il n'y a pas un centre de formation comme ailleurs. Il n'y a que le CPR. En dehors de ça, vous ne trouvez aucune autre école de formation. Donc nous nous sommes dit, il faut quand même essayer de faire redorer le blason de cette ville pour que petit à petit, on puisse avoir d'autres centres de formation.
La commune de Mbata dans la Lobaye électrifiée grâce au projet d'énergie solaire du député Guy Roger Mosquite.
Plus de 100 panneaux solaires ont été installés dans 73 villages de Mbata. Selon l'initiateur, ce projet vise à offrir non seulement la lumière à la population, mais aussi à booster les activités génératrices de revenus. Igor Jeskan Senapai.
Ces panneaux sont installés d'abord dans les lieux publics tels que marchés, hôpital, mairie et les villages riverains de l'axe Pissambata. Une bouffée d'oxygène pour la population bénéficiaire du projet. Jean Alambert, habitant de Mbata.
Cette électrification est un bon projet pour notre ville. Ce qu'il a fait n'existait pas dans la localité. Il a électrifié la ville jusqu'au niveau du quartier Mustapha. Après cette électrification, il y a des dysfonctionnements sur ces installations, mais il n'y a personne pour le suivi. C'est le président de la jeunesse qui a pris ses responsabilités pour pallier le problème. Cette énergie nous rend énormément service car nous avons désormais de la lumière grâce à ce projet. Avec cette énergie, nous pouvons circuler librement pendant la nuit.
Selon Giro Gemoskit, député de Mbaïki 3, l'implantation de l'énergie solaire dans la commune de Mbata permet à la population d'avoir un cadre de vie agréable afin de mener les activités génératrices de revenus.
Moi, je pense que les gens ont un court temps de vie dans la journée dans cette région. Les gens ils se réveillent à 5h du matin, certes, mais ils sont déjà couchés à 14h, voire au maximum 17h, ils sont déjà couchés. Le temps de travail, ça ne dépasse pas 2h. Je pense qu'en mettant la lumière, les gens vont commencer à apprendre à vivre tard et à créer d'autres types d'activités, soit nocturnes ou bien essayer de tout faire pour intégrer la notion du travail. La lumière, ça change la vie.
De nos jours, l'accès à l'énergie reste encore un luxe pour la majeure partie de la population de la Lobaye. Les habitants de la région déplorent le fait que plusieurs sites de centrales hydroélectriques ne sont pas exploités, ce qui freine le développement. Ces derniers temps, des particuliers utilisent davantage de l'énergie solaire dans la zone nord-ouest à cause de l'absence de l'énergie conventionnelle. Igor Jeskin, Senapay, de retour de Mbata, Radio Ndekeluka.
Venons-en à l'organisation des mamans de Sika 2 qui militent pour son autonomisation financière.
Elle a mobilisé plus de 5 millions de francs CFA pour la deuxième année de ses activités de tontine améliorée. La somme cotisée en association villageoise d'épargne et de crédit a été distribuée aux membres adhérentes. C'était au cours d'une cérémonie la semaine dernière. Alexia Félixia Ngwandi.
Elles sont plus d'une trentaine à partager les 5 millions. Chaque membre a reçu en fonction de sa contribution. Béatrice Bouéfini, présidente de l'OMC, est très satisfaite de la mobilisation des femmes de Sika 2.
Nous avons essayé l'année dernière. Chacune de nous cotisait 500 francs CFA et on avait mobilisé plus d'1 900 000 francs CFA. Cette année, chaque membre a cotisé selon ses capacités 2 000, 3 000 ou 5 000 francs CFA et on a recouvrer plus de 5 millions. Et je crois, la troisième étape, nous ferons plus que ça.
Un exemple à suivre pour les autres femmes de Bungui et de la République centrafricaine en général, Tatiana Gofio, accompagnatrice de ces femmes, les encourage et leur demande de multiplier d'efforts pour augmenter leurs cotisations.
On dit souvent qui sème bien récolte bien. Nous devons bien utiliser ce que nous avons reçu, bien exploiter pour multiplier. Et j'exhorte ces femmes à partager leurs expériences aux autres femmes.
Cette association a sollicité des apports de certains partenaires au développement, mais sans succès. Pour les responsables de l'OMSI, les femmes centrafricaines doivent être autonomes que de dépendre de leur mari.
Covid-19. Dans ce journal, le nombre de cas de la pandémie dans le monde a dépassé la barre des 22 millions.
Effectivement, Verdiane, 22 millions de cas sont enregistrés, près de 781 000 décès. Les États-Unis restent le pays qui compte le plus grand nombre de cas avec plus de 500 millions de personnes. La RCA compte aujourd'hui 4 679 cas, dont 1 755 guéris et 61 décès.
La page sport de ce journal, mécontentement du personnel de l'UNASPORT ce matin à Bangui.
Les agents de cet office public manifestent leur colère au sein du complexe sportif Barthélemy Boganda. 5 points sont inscrits dans leur lettre de revendication. Ils réclament le paiement de 4 mois d'arriéré de salaire, la démission du directeur général de l'UNASPORT, le déguerpissement du cabinet du ministre des Sports et le retrait de l'arrêté nommant son directeur de cabinet à la tête d'un comité. Blaise Dida, un des délégués du personnel, explique le mobile de ses revendications.
La première revendication, le personnel demande le paiement de 4 mois d'arriéré de salaire. Le personnel demande à ce que le département du ministère de la Justice Sport quitte le stade. On ne peut pas mélanger les sports et la politique. La CAF avait demandé ce que le ministère quitte, comme les clients sont partis. Troisième revendication, le personnel demande la dissolution du comité de déguerpissement dirigé par le président qui est le directeur de cabinet du ministère, qui est transformé au comité de recouvrement pour des faits personnels. Le personnel pense que maintenant c'est le DICAP qui encaisse de l'argent. Quatrième revendication, le personnel demande la démission du DG de l'UNASPOR et son équipe parce qu'il n'y a pas un marketing commercial, il n'y a pas une stratégie depuis que la crise est là. Pour cela, le personnel a demandé leur départ. Cinquième revendication, le personnel demande au ministre de rapporter son article qu'il avait signé le 5 mai demandant ce que les clients quittent parce que l'UNASPOR c'est un office d'État qui a une autonomie de gestion et qui ne fonctionne que sur les locations et les activités. des sportifs. C'est ça qui nous permet de payer le personnel, d'entretenir les infrastructures.
Le ministre des Sports est venu vers les grévistes pour tenter de les convaincre d'entrer en dialogue. Mais le discours du ministre n'a pas eu d'effet sur le groupe des mécontents. Ils ont gardé leur position et le ministre est reparti. Blaise Dida et ses collègues ne sont pas favorables au dialogue.
Nous avons fait le dialogue avec le ministre plusieurs fois. Il était en confinement, il nous appelait au téléphone, nous avons dialogué. Non, on l'a compris en tant que ministre, en nous donnant une promesse que dès son retour, il ferait de son mieux que les choses là puissent se terminer. Et puis, on l'a avancé. Mais il est venu pas d'avancer. Le ministre se substitue à la place du conseil d'administration, à la place du ministre de contrôle du parapublic. Donc, c'est que le ministre qui fait tout. Donc, rien n'avance. Il n'y a pas un changement.
Blaise Dida, délégué du personnel, est au micro de Bienvenue Bello. Le mouvement déclenché ce jour est prévu pour durer 3 jours.
Football à l'international. FC Bayern de Munich face à l'Olympique Lyonnais. C'est ce soir à partir de 20h.
C'est la deuxième finale de la Ligue européenne des champions. Le FC Bayern avait humilié en quart de finale le FC Barcelone, 8-2. Lyon a sorti Manchester City par 3-1. Hier, en premier match de demi-finale, Paris Saint-Germain a battu RB Leipzig 3-0. Le PSG disputera la finale dimanche 23 face au Lyon ou Bayern. C'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Ne partez pas, la version Sango, c'est tout de suite.